Alors, commençons. On va lire un long texte de Friedrich Nietzsche. C'est un de mes athées préférés parce qu'il va jusqu'au bout. Non, non, mais c'est vrai. Moi, j'aime bien les athées qui sont logiques avec eux-mêmes. Ils nous montrent ce que c'est vraiment la thèse. Nietzsche, c'est probablement le meilleur. C'est pour ça que les athées modernes n'aiment pas parler de Nietzsche. Alors, on appelle ça la parabole du fou. N'avez-vous pas entendu parler de cet homme fou qui, en plein jour, allumait une lanterne et se mettait à courir sur la place publique en criant sans cesse « Je cherche Dieu, je cherche Dieu !» Comme il se trouvait là beaucoup de ceux qui ne croient pas en Dieu, son cri provoqua une grande hilarité. A-t-il donc été perdu? Disait-l'un. S'est-il égaré comme un enfant? Demandait l'autre. Ou bien s'est-il caché? A-t-il peur de nous? S'est-il embarqué? A-t-il émigré? Ainsi criaient et riaient le pêle-mêle. Le fou sauta au milieu d'eux et les transperça de son regard. Où est allé Dieu? S'écria-t-il. Je veux le dire. Je veux vous le dire. Nous l'avons tué, vous et moi. Nous tous, nous sommes ces assassins. C'est pas que Nietzsche ne croyait pas que l'homme moderne a tué Dieu. Il dit, nous avons tué la foi en Dieu. C'est ça qu'il voulait dire. Parce que pour Nietzsche, Dieu n'a jamais existé. On ne peut pas tuer quelqu'un qui n'a jamais existé. Nous tous, nous sommes ces assassins. Mais comment avons-nous fait cela? Comment avons-nous pu vider la mer? Qui nous a donné l'éponge pour effacer l'horizon? Qu'avons-nous fait lorsque nous avons détaché cette terre de la chaîne de son soleil? Où la conduisent maintenant ses mouvements? Où la conduisent nos mouvements? Loin de tous les soleils? Ne tombons-nous pas sans cesse en avant, en arrière, de côté, de tous les côtés? Y a-t-il encore un en haut et un en bas? N'errons-nous pas comme à travers un néant infini? Le vide ne nous poursuit-il pas de son haleine? Ne fait-il pas plus froid? Ne voyez-vous pas sans cesse venir la nuit, plus de nuit? Parce que Nietzsche savait une chose. Si on élimine Dieu, on élimine tout. Le sens, la morale, tout. C'est la noire, c'est le néant. Et donc, c'est le surhomme qui va remplacer Dieu pour Nietzsche. Mais ça, c'est notre histoire. Bon, si vous avez l'impression que nous allons lentement, plutôt lentement, dans le développement de nos idées, vous avez raison. Je fais exprès. Parce que ce que je veux vous faire, on le finira sans doute, hein, tout ce qui est écrit sur vos feuilles, hein, c'est quand même, 6 heures, c'est long, mais quand même. Mais ce que je vous présente, j'aimerais que ce soit pratique. C'est le schéma que nous allons regarder, les exemples différents. J'aimerais que cela devienne une partie de votre monde mental, que cela devienne un genre de réflexe intellectuel, pour que vous puissiez utiliser ça dans la pratique. C'est ça que je cherchais. C'est vraiment éminemment pratique. Quand on parle de ces choses fondamentales, ce n'est jamais abstrait, même s'il faut... Il faut manipuler des idées abstraites. Ce n'est jamais abstrait. C'est une question de vie et de mort. Franchement. Même pour nos enfants. Il faut aborder, ces choses. C'est éminemment pratique. Donc, on va essayer de, construire notre maison petit à petit, ligne sur ligne, idée sur idée. Si lentement ça marche mieux, ben je suis partisan de la lenteur. Je ne vais pas essayer de courir pour finir ce que j'ai préparé. On fera ce qu'on peut. Alors, dans le dernier chapitre, nous avons suggéré que pour ceux qui doutent de l'existence de Dieu, ceux qui le nient carrément, l'apologétique cherche à parler de l'image de Dieu en eux, parler à l'image de Dieu en eux. Mettre le doigt sur la tension qui existe entre la vraie identité de notre ami. Il est qui? C'est un esprit libre créé à l'image de Dieu. on est en train de parler à celui-là. Non pas à ce qu'il pense être, mais à ce qu'il est, en réalité. Montre une attention entre ça et ce qui serait si sa vision du monde était vraie. Qu'est-ce qu'il est? Un singe amélioré, mis à jour avec des nouvelles fonctions, ajouté par des mutations dues au hasard et par la sélection naturelle. On va prendre le premier exemple. Ça va être notre premier cas de figure pour ce schéma que nous allons suivre chaque fois. C'est le sens et le but de la vie. Le philosophe athée Albert Camus, que je lisais beaucoup au lycée, c'est incroyable, hein? Jean-Paul Sartre et Albert Camus étaient les philosophes les plus populaires en Californie dans les années 60. Intéressant. Mais Albert Camus croyait que cette question, quel est le sens de la vie, c'est la question la plus importante de toutes. Regardez ce qu'il dit. C'est dans le mythe de Sisyphe. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Tiens, on va revenir à ça. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Je n'ai jamais vu personne mourir pour l'argument ontologique. C'est un argument en faveur de l'existence de Dieu. En revanche, je vois que beaucoup de gens meurent parce qu'ils estiment que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Je juge donc que le sens de la vie est la plus pressante des questions. Comment y répondre? Ben justement. Comment répondre à cette question? La vie a-t-elle un sens? Ben, ça dépend, n'est-ce pas? Ça dépend de notre façon de voir l'univers dans lequel nous vivons. Si la vision du monde biblique est vraie, alors la réponse est oui. La vie a un sens. Tout a un sens. Si Dieu existe, et si Dieu a créé ce monde en vue d'une finalité, alors tout a un sens. Si Dieu nous a créés dans le but de nous faire partager éternellement la dignité céleste, alors oui, la vie a un sens. Même la souffrance a un sens. Si la vie n'a pas de sens, la souffrance n'a pas de sens non plus. N'est-ce pas? Et là encore, l'athée est coincé. On va voir ça plus tard. Et ce sens, ce n'est pas un sens subjectif que nous inventons simplement pour nous aider à traverser l'absurdité de cette vie. Ce n'est pas subjectif. C'est un sens objectif. Si la vision du monde chrétien est vraie, alors la vie du début à la fin, de Genèse à l'Apocalypse, de A à Z, de haut en bas, de gauche à droite, a un sens. La vie entière a un sens réel, objectif, qui ne dépend pas de nous. Et la vision du monde naturaliste? Qu'en est-il si le matérialisme est vrai? Quel est le sens de la vie? Eh bien, la question de savoir quel est le sens de la vie, est-ce que la vie a un sens objectif? La réponse est naturelle et nécessaire. La vie n'a aucun sens objectif. C'est la réponse nécessaire du naturalisme. Selon le naturalisme, l'univers est un accident cosmique, pas créé par un dieu. Aucune intention derrière cela, aucune intelligence. C'est un accident cosmique. Le fruit du hasard, ça c'est la formule. Le hasard plus la matière, plus l'énergie, plus le temps. Et voilà, l'univers. Nous sommes sortis du néant et nous allons nulle part. Nous allons vers le néant. Nous sommes la poussière dans le vent. Pour citer une chanson des années 70. C'est tout. Alors, quand on parle de cela avec notre ami athée, il risque d'être perturbé par cette conclusion. Il ne va pas se sentir à l'aise avec cette implication d'avoir tué Dieu, c'est-à-dire avoir renoncé à la foi en Dieu. Si on fait ça, Nietzsche dit, c'est le néant. C'est l'absurdité. Les images déprimantes de Nietzsche sont difficiles à embrasser, n'est-ce pas? Il devient de plus en plus froid. De plus en plus, on entre dans les ténèbres. Et pourquoi notre ami se sentira mal à l'aise avec cette implication tout à fait logique, tout à fait naturelle, tout à fait raisonnable de sa vision du monde? Pourquoi est-ce qu'il se sent mal à l'aise? Parce qu'en réalité, il est fait à l'image de Dieu, c'est pour ça. En tant qu'image de Dieu, il sait qu'il est plus que cela. Quand il regarde ses enfants et ses petits-enfants, il ne croit pas un seul instant qu'ils ne sont que de la poussière dans le vent. C'est quelque chose qui est inscrit dans sa nature. Il sait que la vie a un sens et une valeur. Ça lui vient naturellement. Et c'est comme ça qu'il vit. Il vit comme si la vie avait un sens. Alors que sa philosophie dit, la vie n'a pas de sens. Tension. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une pointe de tension là. On pourrait dire qu'il éprouve des sentiments et il vit comme si c'est la vision du monde chrétien qui est vraie. Et voilà ce qu'il fait. Seulement en tant qu'athée, il est obligé de prétendre que la vie n'a pas de sens. Aucun vrai sens, aucun vrai but. De tout ce spectacle est le fruit d'une explosion aléatoire de la matière aveugle sans aucune finalité intentionnelle. Il n'y a aucune intention derrière cela. Le principe créateur, c'est le hasard. Le hasard agissant sur la matière aveugle. C'est tout. Alors, votre ami va peut-être résister à cette conclusion. Qu'est-ce qu'on peut répondre? On peut lui dire que les athées les plus cohérents, les plus raisonnables, les chefs de file de la pensée athée, et toutes ces citations, c'est pas le premier athée venu, hein, c'est les prix Nobel que je cite, c'est les professeurs universitaires mondialement connus. Ce que je vous présente là, c'est la pensée fondamentale du matérialisme. Hein, c'est pas les gens en marge de cette philosophie. Voici ce que dit le paléontologue athée Stephen Gould. C'est vraiment connu mondialement. Nous sommes là parce qu'une espèce particulière de poisson possédait des nageoires capables de se transformer en membres inférieurs pour devenir des créatures terrestres. Parce que les comètes sont entrées en collision avec la Terre, provoquant la disparition des dinosaures et offrant ainsi aux mammifères une chance de survie qui n'aurait pas eu autrement. Remerciez littéralement votre bonne étoile. Parce que la Terre ne s'est jamais entièrement gérée pendant les périodes glaciaires. Parce qu'une espèce menue et fragile qui a surgi en Afrique il y a 250 000 ans s'est efforcée de survivre coûte que coûte. Nous pouvons aspirer à une meilleure explication, mais il n'en existe pas. Bertrand Russell, sans doute le philosophe athée le plus célèbre du début du XXe siècle, dit ceci. Il a écrit « Pourquoi je ne suis pas un chrétien ?» L'homme est la résultante de causes qui n'avaient pas prévu les effets qui en découlaient. C'est le hasard. Son origine, son développement, ses espoirs et ses craintes, ses émotions, ses convictions ne sont que le produit d'associations d'atomes accidentels. Aucun feu, aucun héroïsme, aucune pensée, ni aucun sentiment, aussi intense soit-il, ne peuvent préserver une vie au-delà de la tombe. Tout le labeur effectué au cours des âges, toute la ferveur, toute l'inspiration, toute l'éclatante expression du génie humain sont voués à disparaître dans l'extinction générale de notre système solaire et tout l'édifice des réalisations humaines sera inévitablement enfoui sous les décombres d'un univers en ruine. Pas très réjouissant. D'après une philosophie naturaliste, fidèle à elle-même, logique avec elle-même, les espoirs, les craintes, les émotions, les convictions de notre ami sont le produit d'associations d'atomes accidentels. Voici un texte, là c'est un texte tiré de manuel de biologie utilisé beaucoup aux États-Unis. Okay? Si le monde et ses êtres ne sont purement développés par les forces matérielles et physiques, ils n'ont pas pu être planifiés. Et ainsi, ils n'ont aucun but ni aucune raison d'être. Le message de l'évolution est que l'espèce humaine n'a pas été créée, qu'elle n'a aucun but, qu'elle est le produit d'un mécanisme purement matériel. L'absurdité absolue de l'existence humaine dans un univers sans Dieu, c'est la position du naturalisme. Jean-Paul Sartre, je ne pouvais pas faire ce chapitre sans lui. La mort n'est jamais ce qui donne sens à la vie. C'est au contraire ce qui lui ôte par principe toute signification. Il est absurde que nous soyons nés, c'est-à-dire la vie est absurde, et il est absurde que nous mourions. Même notre mort est absurde. Pas simplement notre vie. Alors, que certains, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, certains vont se jeter d'un pont. Pourquoi est-ce que le taux de suicide est plus élevé dans les pays riches? Pourquoi ça? Vous savez, dans les pays les plus pauvres du monde, le suicide est quasiment inexistant. Pourquoi? Parce que dans l'Occident, on dit à nos enfants, aux jeunes, la vie n'a pas de sens. Qu'est-ce que vous voulez? Mais tout le monde ne va pas se suicider, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut résoudre cette tension? Ben, on va se dire quelque chose comme si. D'accord, la vie n'a peut-être aucun sens, ni aucun but objectif. Le genre de signification transcendante qu'on trouve, par exemple, dans la vision du monde chrétienne, n'existe peut-être pas. Mais quand même, la vie comporte certainement beaucoup de bonnes choses. Des choses dans lesquelles nous pouvons trouver un sens et une satisfaction, au moins à court terme. Les projets que nous nous donnons, les buts que nous nous donnons, les personnes que nous aimons, les expériences que nous pouvons connaître dans la vie. Voilà ce qu'on pourrait appeler la solution humaniste optimiste. Une version plus superficielle et plus grossière serait « mangeons et buvons car demain nous mourrons ». Ça vient de l'apôtre Paul, bien sûr. Une version moins superficielle serait « carpe diem », cueillez le jour, vivez pour le présent. Trouvez tout le bonheur que vous pouvez et faites de votre mieux pour refouler dans votre inconscient le fait que de toute façon, c'est bidon. J'ai dit ça l'autre jour à Alex, parce qu'il parle des discussions qu'il a, hein, parce que bon, ils sont pas nombreux, hein, les croyants sont pas nombreux dans son lycée. Mais il parle de sa foi. Et j'ai dit, si jamais vous voulez mettre votre prof, vous voulez embarrasser votre prof, lève la main et pose-lui la question. Monsieur, quel est le sens de la vie? Pourquoi est-ce que nous sommes là sur la planète? Et je vous assure, avec certitude, le prof ne lui dira pas ce qu'il pense vraiment. Qu'est-ce qu'il pense vraiment? Mon pauvre petit, la vie est absurde. Et ta vie, en particulier, est absurde. Je suis désolé. ne va pas dire ça, n'est-ce pas? Donc, on va opter pour la solution humaniste, optimiste. Et je sais ce que va dire le prof. C'est à chacun de trouver son propre sens. Vous savez ce que c'est? C'est bidon. Vous vous rendez compte? Un test, un examen. 2 plus 2 égale, ça c'est le, disons que vous, il y a un poste, vous faites un concours pour avoir un poste. Il y a 500 candidats et un seul boulot. Et il faut passer un examen. Le seul examen, c'est 2 plus 2 égale. Oh, il y en a qui disent 22. Il y en a qui disent 456. Il y en a un autre qui dit girafe. Un autre qui crache dessus. Alors, on ramasse des papiers et le gars, il fait une annonce. Vous avez tous bon. Tout le monde a réussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de vraie réponse à la question 2 plus 2 égale. Même si quelqu'un disait 4, ça serait une réponse comme les autres. Il n'y a aucune réponse. Quand on dit aux enfants, aux jeunes, c'est à chacun de trouver le sens de la vie, on est en train de lui dire, la vie n'a pas de vrai sens. Donc tout ce que vous pouvez inventer, c'est bon. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est la logique de l'éducation nationale. Les profs n'osent pas dire brutalement qu'ils croient que toute la vie est absurde. Je ne sais même plus où j'en suis là. C'est comme si le Titanic est en train de couler et en train de remettre en ordre les transats. Alors qu'en train de couler, ça ne sert à rien. C'est bidon. Une solution bidon. On peut trouver des raisons de vivre à court terme. Mais l'absence, la présence de raisons de but à poursuivre à court terme ne compense pas l'absence d'une raison à vivre à long terme. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les lycéens que je connais croient que le but de la vie, c'est le bac. Bon, une fois qu'ils ont le bac, le but de la vie, c'est un diplôme. Et puis, c'est un boulot. Vous voyez ce que je veux dire? À court terme, ça peut marcher. Mais pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Quel est le but de tout? Désolé, c'est absurde. Albert Camus désirait de tout son cœur éviter le désespoir, éviter le nihilisme. Il voulait éviter les conclusions de Nietzsche. Et il a mené ce combat toute sa vie. Mais il n'arrivait pas à se débarrasser de ce sentiment ténace que la solution humaniste optimiste n'était finalement qu'une fuite devant la réalité. On dit que la vie est dépourvue de vraie signification, d'un côté. De l'autre côté, on dit que nous pouvons quand même inventer des sens pour nous-mêmes. Et pendant le temps, les quelques années que nous vivons sur la Terre. Il dit, ça c'est un réconfort psychologique pour nous. Mais intellectuellement, c'est le suicide. On est en train d'accepter un mensonge pour nous réconforter psychologiquement. Ça vous rappelle quelque chose? N'avez-vous jamais vu, entendu ça? Un incroyant qui dit, ah oui, vous les chrétiens, c'est parce que c'est pour être réconforté que vous acceptez le Christ. Non, c'est le contraire. Camus disait que puisque la vie est absurde, dépourvue de sens objectif, la plus grande question philosophique, c'est le suicide. Décider si la vie vaut la peine de continuer ou pas. Mais si nous nous supprimons pour supprimer le problème, si nous tuons le malade pour guérir la maladie, cela ne nous avance pas. Jean-Paul Sartre, la mort est tout aussi absurde que la vie. Alors le suicide ne nous avance pas du tout. En fin de compte, tout ce que nous pouvons faire, disait Camus, c'est de poursuivre des choses qui semblent donner un sens à la vie, tout en sachant que finalement, C'est bidon. C'est tout ce qu'il a trouvé. Bon, je vois qu'il est midi et midi 5. Encore 2 minutes. On arrive à la fin du chapitre. Qu'est-ce que nous avons prouvé ici? Est-ce que nous avons prouvé que Dieu existe? Non. Est-ce que nous avons prouvé que la vision du monde chrétienne est vraie? Non. Pas du tout. Le fait que le naturalisme implique un univers dépourvu de signification réelle ne prouve pas que Dieu existe. Et ne prouve pas que le christianisme est vrai. Par contre, l'absurdité de la vie est une conclusion nécessaire, inévitable, du naturalisme philosophique. Inévitable. Et quand nous signalons cela, nous mettons le doigt sur une tension existentielle dans l'âme de notre ami athée. Nous mettons le doigt. C'est un point sensible. Parfois, c'est une plaie ouverte. On n'est pas en train de jouer ici, hein. C'est pas une joute intellectuelle, hein. Là, c'est pas facile d'accepter ça. C'est pas facile pour un athée d'accepter ce que nous disons. Nous sommes là pour aider les autres à réfléchir. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi nous devons aider les gens à réfléchir? Parce qu'ils ne réfléchissent pas. Ils acceptent. On peut passer toute sa vie sans jamais demander pourquoi est-ce qu'on vit. Notre société est faite pour ça. On peut se distraire, on a des divertissements, on a des activités en cours comme des dératés dans notre société. Cela nous permet de ne pas réfléchir. N'est-ce pas? Alors, nous sommes en train d'aider les gens à ralentir et à réfléchir sur ce qu'on a accepté passivement. Et c'est pas facile. C'est pas facile pour nous de faire cela. Mais je veux vous dire quelque chose. Il faut que nous fassions ce travail de réflexion. Si nous ne réfléchissons pas, nous ne pourrons jamais aider nos enfants à réfléchir. Si nous n'avons pas fait le travail nous-mêmes, oubliez le fait d'aider les autres. Ça ne marchera pas. C'est pour ça que ce sujet, pour moi, est vital. Vital.